Les pieds sur terre, quartier d'été, Sonia Kronlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
L'histoire se passe en Hollande. Adolescent, Ed songe d'abord à devenir moine, puis se tourne vers le tourisme. Vers 30 ans, il décide de donner son sperme. Il passe d'abord par une clinique qui juge sa semence d'excellente qualité et lui en prend pour 25 enfants, le maximum légal. Mais Ed est un peu frustré. Lorsque les Pays-Bas, en 2004, décident de lever l'anonymat des donneurs, le pays fait soudain face à une pénurie. C'est alors qu'Ed intervient en devenant donneur privé. Il pose des petites annonces sur Internet, crée son propre site web. Les femmes seules, les couples lesbiens et stériles se bousculent à sa porte. Ils viennent du monde entier pour rencontrer ce philanthrope qui donne son sperme gratuitement et même fournit des certificats médicaux. Il laisse toujours le choix aux femmes entre une insémination et un rapport sexuel. 9 fois sur 10, dit-il, elles préfèrent la voie naturelle. Elles souhaitent, ajoute-t-il présomptueux, garder un bon souvenir du jour où l'enfant a été créé. Il fait également un tri entre les demandes selon des critères personnels. Il refuse les femmes en surpoids, les couples qui fument, boivent ou se droguent. Sur une photo, il découvre que l'appartement de la future maman est mal rangé. Il la raye de sa liste. Son succès mondial est tel qu'en 2013, il estime être le père biologique de 120 enfants. Il les répertorie consciencieusement dans un grand tableau Excel, adressé à tous, pour réduire le risque de consanguinité. Une grande majorité d'entre eux sont déjà venus le voir. Ils savent qu'ils ont une centaine de demi-frères et sœurs. PMA hors la loi, c'est le 4e épisode de cette série dans laquelle Adila Benedjaizou, célibataire de 44 ans, essaie d'avoir un enfant en dehors des lois. Elle revient à présent d'une clinique madrilène qui a réalisé une fécondation in vitro avec donneur anonyme et lui a implanté un embryon. Hier matin, le Comité national d'éthique rendait un avis favorable à la PMA pour toutes. C'est donc l'occasion urgente d'écouter cet épisode et les 5 autres disponibles dans un podcast spécifique pour savoir quelles questions on se pose, ce que c'est que d'être encore hors la loi. Est-ce que je peux imposer ma marginalité à mon enfant ? Se demande par exemple tout de suite Adila Benedjaizou.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Et après qu'on a fait tout ça, on a fait les transferts d'embryons, on arrive à l'attente. Et c'est terrible. C'est pas facile de... Bon, on a, dans cette étape, on a beaucoup d'anxiété pour savoir si ça va aller, si le résultat sera positif, si le résultat sera négatif. C'est comme une montagne russe. Et nous sommes vraiment stressés. Je pousse tous mes espoirs, toute ma vie pour faire ce traitement. Et après, si ça n'arrive pas, qu'est-ce que je peux faire? C'est comme ça, c'est vraiment difficile de passer pour cette étape.
Et tu vois, il est déjà plus dedans, là. Et nous, on a percé le truc pour qu'ensuite, il n'y ait plus qu'à... Hop, l'insérer dans le vagin, et ensuite tu pousses au fur et à mesure et clic.
Je suis célibataire en fait et j'aimerais avoir un enfant par fécondation in vitro.
Elles feront toutes des bébés toutes seules quand elles voudront. Comme
je suis favorable à ce qu'on étende la PMA aux femmes seules et aux couples femmes.
En fait, moi, je ne suis pas née d'une étreinte.
Il y en a qui disent que c'est dégoûtant.
Jamais je me suis dit, même par rapport à mon homosexualité, ça ne va pas être possible.
Il faut dire que papa est trans, mais maman, elle est gouine.
Procreatex, para español, marque uno.
Et le problème, c'est que plus t'essayes, plus t'as peur.
Mesdames et messieurs, bonsoir, votre commandant. Je m'appelle Jan Verhagens, assisté par la coopérative Lucas Estep. Et avec notre chef de cabine, Emily Denham et Marvus Co.
Je reviens de Madrid avec mon petit embryon de qualité moldave dans le ventre. Il faut que j'attende 15 jours pour savoir si je suis enceinte ou pas. Et le séminaire organisé par la clinique espagnole d'Ivray, c'est un moment sacrément difficile. Je retourne voir Lisa, qui a fait plusieurs FIV au Danemark, pour lui demander comment elle a vécu cette attente.
Bah oui, j'espère. Moi, j'espérais énormément. Enfin, tu vois, les premiers jours, j'étais là, tu vois, je mettais la main comme ça sur le ventre. Et en même temps, c'est bizarre parce que c'est comme une espèce de. C'est pas que j'y crois pas, mais j'ai du mal à me dire bon, bah là, j'ai un petit embryon qui va peut-être se développer. Je me dis, c'est hyper fragile, faut que je fasse attention, tu vois, même quand je vais aux toilettes, enfin, tu vois, des trucs. Non, mais c'est. Et moi, je me souviens, la première fois, je me suis retenue pendant presque 2 heures. Je me suis dit non, surtout pas, là, je vais surtout pas aller maintenant, ça se trouve, je vais le perdre d'un coup, c'est horrible tout ça. C'est 4000 euros dans les chiottes. Merde, quand même. Non, mais attends.
Et ton état d'esprit, il change au fur et à mesure que le temps passe?
Ouais, parce que bah, comme moi, je suis déjà tombée enceinte et que j'ai vu ce que ça faisait sur moi, en tout cas, d'être enceinte, j'avais vraiment tous les symptômes. J'avais des nausées mais hallucinantes. Et j'avais des seins mais qui me faisaient hyper mal. Je te dis ça parce que j'ai eu les deux premières fives, et surtout la première en fait. Je me souviens très bien, c'était un soir. Et là, j'ai vraiment ressenti ce que j'avais ressenti quand j'étais enceinte. Donc j'ai eu ces douleurs de sein. Et je me souviens très bien, c'était un soir, j'allais me coucher. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais oh, ah, mais c'est ça. Tu vois, c'est vraiment le. Tu sais, c'est comme presque la Madeleine, tu vois, le truc qui est revenu, mais c'était il y a 5 ans, tu vois. Et je me suis dit, mais c'était exactement ça. Et là, je me suis dit, ça y est, ça marche. Puis mes règles sont arrivées 4 jours après.
Et donc,
et là, j'ai beaucoup pleuré.
Ah ouais. En fait, t'es déjà tombée enceinte une fois dans ta vie.
Ouais. À 39 ans. Ça fait 5 ans et demi. Bah, je suis tombée enceinte. J'ai rencontré un mec. J'étais très, très amoureuse de lui. Ça faisait plusieurs mois qu'on se connaissait. On se connaissait, on a fini par coucher ensemble. Voilà, on a fait l'amour sans rien. Et je suis tombée enceinte, au fait, la première fois. Et lui m'a tout de suite dit, quand je lui ai dit que j'étais enceinte, il m'a dit ah, c'est une très mauvaise nouvelle. Et même s'il a il avait son fils déjà, mais pour lui, c'était pas question, quoi. Il n'était pas question du tout. Donc ça a été très, très, très douloureux, en fait, cette période de décision, que ça a duré à peu près 10 jours, tu vois, où je ne savais pas si j'allais avorter parce que lui, il préférait que j'avorte. Et moi, j'avais beau lui dire, je voulais pas avorter, que ça faisait très longtemps que j'avais envie d'un enfant, que j'avais essayé avec le mec d'avant, que, enfin, tu vois, que, je sais pas. Je lui dis, puis avorter à 39 ans, tu vois, j'arrêtais pas de lui répéter ça. Bah, je lui dis, mais avorter à 39 ans, c'est pas pareil qu'à 25. Et en fait, ce qui a fait que j'ai avorté, surtout, c'est qu'il a fini, il m'a dit, mais laissons-nous une chance, toi, faisons-nous confiance, machin, une espèce de truc un peu comme ça, d'espoir très ouvert. Donc moi, j'attendais qu'il me dise que ça. Et l'autre chose, c'est que j'ai eu peur. J'avais peur, en fait, d'aller, de dire, bah écoute, je m'en fous, moi, je veux le garder. Parce que je sentais que si je lui disais, moi, je le garde, j'avorte pas, bah c'était, il se barrait et c'est tout. Après, donc, j'ai décidé d'avorter. Les semaines qu'on suivit. Évidemment, aujourd'hui, je regrette. Tu peux imaginer à quel point. Ouais, je fais tout ça, en fait, tout ce qui est toi, PMA, FIV et tout. J'ai l'impression que je fais. Y a, parfois, je me dis peut-être que si ça ne marche pas, c'est aussi peut-être parce qu'il y a aussi cette lourde charge d'immense tristesse liée à cet avortement.
Lisa a raison. Quand on a recours à la procréation assistée, on doit toujours faire le deuil de quelque chose, ne serait-ce que celui de sa fertilité. Je n'ai jamais avorté, mais j'ai dû faire le deuil d'une personne, d'un homme que j'aurais aimé et avec qui j'aurais eu un enfant, ou plutôt de plusieurs personnes, du couple idéal que j'aurais formé avec cet homme et qui aurait donné naissance à un ou plusieurs enfants. Avancer dans le processus de procréation assistée m'amène à prendre conscience que ça ne m'arrivera plus jamais maintenant et que je dois l'accepter. Plus les jours passent, plus des pensées comme celle-ci m'envahissent. En fait, ce qui me rend folle, c'est de ne pas savoir alors que les dés sont jetés. Le fœtus s'accroche dans les 48 heures après le transfert, ce qui fait que je vis pendant plusieurs jours comme si j'étais enceinte alors que je ne le suis peut-être pas. Et le jour où j'ai une rage dedans, la situation devient insupportable.
Et 3h52, je suis chez moi et j'ai une rage dedans. Pas possible, j'ai hyper mal à la dent. J'arrive pas à dormir. Et dans ma trousse de toilette, j'ai juste un comprimé qui traîne. Je sais que c'est un antidouleur et que c'est probablement de l'ibuprofène. Et normalement, j'ai le droit de prendre que du paracétamol. Et je sais pas quoi faire. Je sais pas si je dois prendre ce comprimé.
À mesure que le temps passe, mon impatience augmente et je fais LA chose interdite par les règles les plus élémentaires de santé mentale. Je vais voir des forums sur Internet. Et là, je découvre un univers à part entière. Les femmes qui suivent des traitements de fertilité échangent abondamment sur le web. Les discussions entre réunions tupperware et rencontres de sorcières sont truffées de noms de code. Pour dire gynéco, on dit Gigi, Fofo pour follicule et Bribri pour embryon. Ce qui donne des messages comme « Salut Déby, moi j'avais 9 Fofo et ils ont donné que 4 Bribri. Mon Gigi ne m'en a transféré qu'un et j'en ai encore 3 au congélo. » Et puis je me dis, si ça se trouve, le Bribri s'est barré depuis 2 jours et t'espères pour rien ma pauvre.
Quoi ? Ça veut dire quoi ?
Mon Bribri et moi, comprenant que nous ne pouvons rien attendre de ces forums, sommes allés voir Anne et Ben, qui ont eu eux aussi des difficultés avant d'avoir leurs 2 enfants.
Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble, Anne et Ben ?
On s'est rencontrés le 14 août 2006, donc il y a maintenant bientôt 12 ans, en Mayenne. On était tous les deux, on a participé tous les deux à un camping féministe qu'on a renommé depuis le camping de l'amour. Donc Ben, je l'ai rencontré la première fois, j'avais monté ma tente et je suis retournée chercher quelque chose dans ma tente. Et là, il y avait 2 personnes en train de s'embrasser dans ma tente. Du coup, j'étais un peu surprise. Et là, donc, Ben me dit... Désolée, mais en fait, il y avait une araignée dans ma tente et ça, j'arrivais pas à la sortir, ça nous faisait peur, donc on est venu dans la tienne. Donc voilà. Et en fait, bon, c'était une histoire qui était en train de se finir et 3 jours après, on était ensemble. D'accord. Et depuis, on ne s'est plus quittés.
Vous vous souvenez de la première fois où vous avez parlé d'avoir des enfants ?
Alors là. Non, moi je me souviens pas. Je crois que au début, moi j'étais pas très motivé pour avoir des enfants. Et Anne, plus. J'avais pas trop l'intérêt. Et ben. Là, je me rappelle pas de la discussion qu'on a eue, mais à un moment, en fait, c'est devenu important pour, disons, asseoir notre couple, enfin, quelque chose. Pour que ce soit quelque chose de plus stable. Enfin, il y avait une idée, je crois, comme ça.
Et ils ont quel âge, vos enfants ?
Nanou a 2 ans et quelques, et Nikki a 3 mois. On a eu une première envie d'avoir des enfants, enfin, on s'est même lancé vraiment concrètement une première fois, je me rappelle plus exactement quelle année c'était, mais genre il y a 6-7 ans déjà, où on est allé en Belgique pour une PMA et en fait, on s'est fait jeter par l'hôpital, la Citadelle, la Liège, que je ne citerai pas.
Ils n'ont pas voulu de nous.
Ils n'ont pas voulu de nous.
Ah bon, mais pourquoi ?
Ils ont dit qu'il fallait qu'on aille voir un psy. Et ils ont dit que, sans avis de psychiatre, ils ne voulaient pas nous accorder le droit à la PMA.
Ben, à l'époque, n'avait pas transitionné. Et donc, comble quand même de l'histoire, c'est quand même vraiment ironique à posteriori, cette gynécologue, qui donc, est gynécologue, donc elle n'est pas psy, mais bon. En fait, elle a demandé si on avait un référent paternel autour de nous. Donc nous, on lui a dit, bah en fait, non, il n'y a pas de papa, il n'y a pas de référent paternel. Et donc elle nous a dit, mais à qui votre enfant va offrir le cadeau de la fête des pères ?
Elle a vraiment dit ça texto.
Et qu'est-ce que ça veut dire, Ben n'avait pas encore transitionné ? C'est quoi transitionner ?
Et ben du coup, à ce moment-là, moi j'étais une lesbienne. Et du coup, j'avais pas encore fait mon changement de genre. Qui est arrivé plus tard. Et bah, voilà, maintenant je suis transgenre. Donc, j'ai commencé par changer de pronom et de prénom pour, autour de moi et de dire aux personnes du coup que j'étais transgenre et que je voulais qu'on parle de moi au masculin et tout ça. Et du coup, ça m'a fait beaucoup de bien.
Mais qu'est-ce qui s'est passé ?
Bah, j'ai adoré ça. Je me sentais enfin, il y avait un truc genre, en fait, ça sonnait super bien à mes oreilles. Enfin, tu vois, je sais pas dire ça. C'est. C'était hyper libérateur, ça m'a fait vraiment vraiment beaucoup de bien. Et pendant cette période-là aussi, du coup, j'ai porté un binder. C'est quelque chose qui permet de masquer les seins et ça permet aussi du coup d'avoir une apparence pour moi qui était plus en adéquation avec, avec comment je me sentais et que ça me plaisait bien. Et ça m'a donné beaucoup de confiance en moi. Enfin, c'était vraiment, ça a été vraiment clair que je ne reviendrai pas en arrière en tout cas.
Et à quel moment t'as décidé de te faire appeler Ben?
Et bah alors c'est toi qui disais ça en 2013. Donc c'était quelque chose qu'on a beaucoup réfléchi en couple en fait. C'est une décision dans laquelle Anne m'a vraiment beaucoup aidé et soutenu.
Je vois très bien la chambre dans laquelle on était, sur notre canapé lit. On dormait tous les deux et effectivement c'est même moi qui ai suggéré aussi parce que ça posait trop de questions et c'était pas clair et tout ça. C'est même moi qui ai suggéré de faire un essai, c'était l'idée. Non mais on ne t'engage pas, tu fais un essai pendant 3 semaines, et après tu décides.
Ouais, ouais.
Donc j'étais au contraire très emballée qu'il accepte de faire cet essai, et après moi, comme toutes les personnes qui côtoient des personnes qui transitionnent, c'est pas si facile de se faire au coup du changement, ça vient assez vite, mais il faut faire un petit effort pour passer, changer de pronom et changer de prénom. Donc voilà, moi j'ai eu ce petit apprentissage à faire, mais j'ai toujours, après, Ben n'a pas du tout changé pour moi, quoi. Enfin, c'est toujours la même personne, je l'aime toujours autant, il est même juste encore mieux dans sa peau, encore plus tranquille. Donc le seul petit truc, c'est que j'étais extrêmement fière d'être une gouine avant et que maintenant je passe pour une hétéro partout, c'est un petit peu horrible. Donc à part ce petit détail qui n'est pas cher payé pour comme tout le bonheur que je vis, je suis hyper heureuse, ça n'a jamais... J'en ai trop de chance, quoi.
Ouais, c'est drôle parce que par rapport à ça, Anne, elle me dit souvent que pour les enfants, il faut dire que papa est trans... Mais maman, elle est gouine, hein. Pas oublier que maman, elle est gouine. Elle me dit toujours, maman, elle est gouine, t'oublies pas. Hein. Ah, d'accord. En fait, avant que je transitionne, tu vois, on s'était dit, on portera un enfant chacun, chacune. Du coup... La grossesse, c'était quand même bien... ça donne pas forcément envie, donc on n'en avait pas envie, l'accouchement non plus. Et du coup, on s'était dit, on partage en deux le travail. Et moi, transitionnant, c'était assez naturel que je le fasse en premier pour pouvoir justement poursuivre ma transition après.
Mais la transition, ça n'a pas du tout remis en cause le fait que vous alliez avoir 2 enfants et que vous deviez en porter chacun un.
Je crois que ça m'a posé pas mal de questions au début, et je crois aussi que quelque part je me suis dit un peu c'est la dernière chance, tu vois. Si ça se trouve, ça va me couper l'envie de transitionner, tu vois. Je me suis dit quelque chose comme ça, peut-être, tu vois, ça va du coup réveiller en moi un instinct de mère, tu vois, de femme, je sais pas. Et ce qui est marrant, c'est que moi j'ai très très bien vécu la grossesse, j'ai vraiment trouvé ça, j'avais la pêche. Bon, c'est vrai que les seins étaient très gros et ça me plaisait moyennement, mais l'énorme ventre, je trouvais ça amusant, tout le monde prend soin de toi, moi j'avais vraiment des beaux cheveux, tout ça, tout ce qu'on dit, j'avais trouvé ça super bien. Mais tu vois, ce truc de femme enceinte, ce personnage de femme enceinte, pour moi, il est assez décollé de femme. Enfin, c'est d'autres choses qui s'y jouent, tu vois, je sais pas, donc... Du coup, ça changeait pas, j'étais enceinte.
Ah, t'étais enceinte?
Ouais, j'étais enceinte, d'accord. Exactement.
Bref, et donc après l'accouchement, quand même, en fait, je ne t'en souviens peut-être pas, mais Ben a hésité à transitionner parce que pour le bien des enfants, en fait, il s'est dit, je veux pas faire vivre ça à mon enfant, je veux pas, il y en avait qu'un, c'était Nanou, et tu voulais, tu disais, je veux pas faire ça à mon enfant.
Faire quoi?
Ah, j'ai oublié, c'est vrai. Ah ouais, c'est vrai, et c'est quelque chose qui me questionne encore, hein, mais c'est vrai que oui, je me suis dit, oh là là, si tu vois, t'es un enfant et que t'es né, de fait, ta mère, c'est en fait ton père, et transgenre, C'est super lourd, ça va complètement le casser, ça va le faire vivre, on va se moquer de lui, ça va lui faire vivre forcément aussi une espèce d'énorme secret à pas dire quand il aura compris en fait la portée des choses. Et du coup, je me suis dit oui, je ne transitionne pas parce que ça va être beaucoup trop compliqué pour lui quoi. Et puis bon bah moi, j'ai quand même vécu en meuf, tu vois, un certain nombre d'années, donc bon bah voilà, on a qu'à continuer. Mais ça n'a pas tenu, quoi.
Et du coup, ce qui s'est passé quand même, c'est que j'ai beaucoup poussé.
C'est toujours là pour...
Ouais, finalement, j'ai quand même pas mal œuvré. Parce que, évidemment, j'arrêtais pas de dire à Ben qu'en fait, un enfant préfère avoir un papa bien dans sa peau, heureux de vivre, voilà, tout tranquille, tout bien, plutôt que d'avoir un parent pas bien qui a renoncé à quelque chose de quand même assez important.
Et là, ça fait un an et demi que du coup je prends des hormones, donc de la testostérone, et j'ai aussi fait une mastectomie il y a pas très longtemps. Et là, j'ai aussi fait un changement d'état civil au tribunal il n'y a pas très longtemps. Donc là, il y a pas mal de choses qui se sont faites assez récemment. Et voilà, moi, j'en suis ici dans ma transition. Ça me convient tout à fait. Je suis très, très content. Et voilà.
Et alors, du coup, le récit, parce que ça, c'est la grande question. Moi, je me la pose pour moi. Tous les gens que je rencontre, évidemment, se la posent. Qu'est-ce qu'on raconte à nos enfants? Vous y avez pensé ou pas?
Alors, on y pense petit à petit. J'avoue que ça nous stresse, mais pas plus que ça. Moi, je crois que c'est vrai que papa, c'était une fille avant, pour qu'il puisse comprendre ça, mais que maintenant, c'est papa. Et puis, dans un deuxième temps, papa, c'était une fille avant, et papa, il a porté un enfant, et c'était toi.
Moi, par contre, enfin moi, j'en parle beaucoup en fait. Je lui répète souvent. J'ai mis une photo de Ben avec son ventre dans sa chambre. Et quand moi-même j'étais enceinte, je disais, tu vois, maman, elle attend un enfant. Mais regarde, avant c'était papa qui te portait. Toi aussi, t'étais dans le ventre. Ça, évidemment, on veut tous les deux qu'ils sachent tout le plus vite possible dès qu'il est en mesure de comprendre. Après, comme dit Ben, c'est vrai que le choix des mots est compliqué parfois.
Et du coup, par exemple, Nanou, est-ce qu'il pose déjà des questions ou c'est un peu tôt? 2 ans, il a, c'est ça.
Ouais, 2 ans qu'elle. Non, il pose pas de questions, il c'est un peu zizi là maintenant. Voilà, je crois qu'il se demande pourquoi lui il a un zizi et pourquoi Nikki et maman et papa ils ont pas de zizi. Je pense que ça a l'air de. Mais il le pose pas du tout comme ça pour l'instant. Et j'ai l'impression qu'il.
Il a ouais, c'est peut-être un truc. Moi je sais qu'il a dit à un moment, papa a une zézette. Et je me suis dit, oula.
Mais enfin Ben est tellement bien dans sa vie, dans sa peau, et moi aussi je suis persuadée que les enfants ce sera pareil. J'ai pas vraiment de peur, au contraire, je suis très confiante, et dès le début j'étais très confiante, j'étais persuadée que l'enfant il préfère que ses parents soient bien, et ses parents sont plus aimants quand ils seront vraiment bien, et nous il se trouve qu'on est vraiment bien et qu'on les adore. Donc voilà.
Heureusement que Anne est comme ça, parce que c'est vrai que moi j'ai beaucoup d'angoisse et beaucoup de stress, et par exemple aussi le fait que notre fille c'est Anne qui l'a portée, et ben je me dis ça va pas être pareil pour les deux, et les enfants vont pas la quitter en lui disant t'as vu ce que tu nous as fait, et qui se barre en me disant t'es un monstre ou un truc comme ça, enfin j'ai ces peurs là donc mais après par rapport aux angoisses, le problème c'est que on est un peu pionnier, tu vois. Il y a un côté où en fait, on serait un couple de lesbiennes, on serait quand même dans quelque chose qui est connu, par, tu vois, qui est reconnu, où les enfants ils sont pas complètement paumés, que là on est dans un truc, ça fait hyper peur en fait, juste parce que ça a pas, juste parce que ça a pas encore été fait, enfin tu vois quelque chose comme ça qu'on connaît pas trop. En fait, ça se trouve ça va très très bien se passer, il va pas y avoir de soucis, mais on connaît pas ça. Du coup, c'est ça qui fait super peur.
Après avoir rencontré Anne et Ben, mes petits doutes de femme célibataire me paraissent dérisoires et je me sens prête à tout assumer. Mais encore faudrait-il que cette FIV fonctionne. La chose intéressante quand on vit une période comme celle-là, c'est que ça révèle le rapport qu'on a à l'espoir. Il y a ceux qui espèrent toujours, coûte que coûte, jusqu'à ce qu'ils se retrouvent en face de la réalité. Il y a ceux qui partent perdants, bonjour, quoi qu'ils fassent.
Je viens chercher des résultats d'examen.
Et puis il y a ceux qui, comme moi, désespèrent à voix haute, par peur qu'un excès d'optimisme fâche les puissances tutélaires qui gouvernent le monde et nos utérus.
Ça va ?
Ouais. Un peu stressé, toi.
C'est vrai ?
Bah, moi, je suis à peu près sûre que j'ai mes règles.
Ah bon ? Ouais. T'es sûre ? T'étais pas sûre ?
Ouais, mais là, j'ai un peu tous les signes, quoi.
Bah ouais.
Ouais. Tu vois, elle est cachetée, je ne l'ai pas ouverte. Hein.
Ouais.
Alors que, bon, je connais la réponse, mais du coup, c'était un peu énervant de à la fois savoir et pas à la fois pas avoir la confirmation.
Ah ouais, c'est
sûr. Recherche négative. Bêta HCG plasmatique. En fait, c'est ça qu'ils cherchent pour savoir si t'es enceinte. Mmh. Recherche négative.
En tout cas, j'ai une bonne nouvelle, t'es pas une femme ménopausée parce que t'es pas dans le... Tu vois, t'es une femme non enceinte. Parce que t'es entre... T'es
la... ouais, et je suis pas un homme, non. Homme.
T'es pas une femme ménopausée, au pluriel.
Ouais. C'est vrai.
Ok.
Ouais. Bon, ben voilà. 6000 euros de foutu en l'air.
C'est au moment où j'ai lu le résultat négatif que j'ai compris que malgré mes discours raisonnables, malgré mon sang qui avait coulé le matin même, je continuais d'espérer. À présent, l'attente est finie. Je dois passer à autre chose. Mais quoi ?
1, 2, 3, 4.
C'était PMA hors la loi, quatrième épisode d'une série d'Adila Benedjaizou, réalisée par Cécile Lafont avec un coup de main de Yaël Mandelbaum. Est-ce que je peux imposer ma marginalité à mon enfant ? C'est le titre de cet épisode diffusé pour la première fois le 26 septembre 2018. Merci à Lisa, à Anne, à Ben, à Karen, à Sandrine Chaperon, à Camille Richir et à Sarah Djeriou.
Tell